c'est l'autre. Continuer cette petite enquête que je crois importante pour nous, puisqu'il faut tout le temps revenir là-dessus, en le méditant, parce que c'est la parole de Dieu, et c'est donc c'est très riche. On est obligé d'aller vite, parce que il faut voir un petit peu l'ensemble. Troisième comparaison, c'est la comparaison du temple de Dieu. Donc, si, par rapport au Christ, l'Église est son corps, donc unité, substantiel de vie dans la diversité. Et dans le corps, l'élément le plus subtil, c'est le sang. C'est ce même sang qui nous unit à Jésus. Celui du Christ est le nôtre. Nous pouvons dire cela comme le cœur. Unité profonde. Le cœur et la tête. On peut pousser ces analogies. Puis, le choix libre. L'analogie, selon la comparaison, n'est plus substantielle, mais intentionnelle, au point de vue humain. Bien comprendre cette union d'union, cette comparaison de l'époux et de l'épouse. Voyez, le prophète Osée au Cantique des Cantiques, et comprendre que le Cantique des Cantiques prend toute sa signification avec le Christ et l'Église. Et dans l'évangile de Jean, je reviendrai au terme, dans l'évangile de Jean, c'est Jean-Baptiste qui montre que Jésus est l'époux et l'Église l'épouse. raison, le temple. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes plus à vous-même, car vous avez été racheté à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Alors voyez, c'est votre corps. Donc on retrouve la question du corps vu d'un autre point de vue, de ce point de vue du temple de Dieu. C'est tout à fait autre chose comme comparaison. On va lire cette autre affirmation, Éphésiens 2, 19. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu, édifiés que vous êtes sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien ordonné s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés pour être, par l'Esprit Saint, une demeure où Dieu habite. Ce texte éphésien est très fort. Et on voit le rôle particulier de Jésus par rapport à ce temple. Alors, chaque fois, Jésus est tête de l'Église. Jésus est époux de l'Église. Jésus est pierre angulaire de l'Église, temple du Saint-Esprit. Et ce temple du Saint-Esprit, chacun des membres en est un temple. Notre corps est le temple de l'Esprit-Saint. Et là encore, l'unité, la diversité, et au-delà de la diversité, l'unité. Le temple, la pierre angulaire, vous savez bien ce que c'est que la pierre angulaire. Les quatre couronnés savent bien ça. On leur demande ce que c'est que la pierre angulaire. C'est capital, la pierre angulaire, pour pouvoir édifier d'une manière droite. Et tout repose sur la pierre angulaire. Et c'est pas du tout la même comparaison. C'est la comparaison d'un fondement. Mais pas seulement fondement. La pierre angulaire, c'est pas le fondement. C'est beaucoup plus. C'est ce qui est à la base, mais qui sert de mesure à tout le reste. Tandis que le fondement ne sert pas de mesure. Ce qui permet d'édifier d'une manière correcte. C'est ça, la pierre angulaire. Ça joue ce rôle très particulier. Je crois que c'est les trois grandes unités que nous trouvons dans Saint Paul sur l'Église. Ce qui est très curieux, alors ça, c'est le point de vue du théologien qui regarde ça. Ce qui est très curieux, c'est que c'est les trois expériences que vous avez de l'unité. Vous avez trois grandes expériences de l'unité. Vous avez l'expérience biologique de votre corps. Nous avons cette expérience. J'ai cette expérience vitale que ma tête, c'est ma tête, que mon bras, c'est mon bras, que ma jambe, c'est ma jambe. Et quand je commence à avoir mal, du rhumatisme, mal à la tête, mal au cœur, on voit qu'il y a quelque chose de détraqué. Quand on est jeune, on ne pense pas à la diversité. On est toute une pièce, le jeune. javelot lancé. Quand on commence à prendre de l'âge, pour ne pas dire autre chose, alors on sent que les pièces, je ne dis pas Stévis, mais que les pièces commencent à faire du mal, quelquefois très vite, mal à l'estomac, mal à la tête. La tête n'est pas faite pour avoir mal, elle est faite pour qu'on puisse penser mal au bras, du rhumatisme, bien un bras cassé, une jambe cassée, accidentellement. Alors on voit tout de suite la complexité, mais l'expérience profonde de l'unité substantielle. Vous faites d'autres expériences de l'unité affective, intentionnelle, au niveau de l'amour. On voudrait, quand on aime quelqu'un, que cette unité intentionnelle devienne substantielle. Ça éviterait beaucoup de problèmes. Parce que ce serait fait une fois pour toutes. Tandis que cette unité intentionnelle est toujours capable, puisqu'elle est libre, d'être brisée. La fragilité de l'unité intentionnelle. On promet tout au moment où on aime, et puis le lendemain, on dit l'inverse. Ou 15 jours après, ou 6 ans après, ou 10 ans après. La crise. C'est tout à fait différent comme unité, mais c'est une expérience intérieure de l'unité. L'expérience biologique de l'unité de notre corps, elle est un peu extérieure. Parce que vous n'avez pas l'expérience de l'unité de votre sang. C'est bien dommage. Vous n'avez pas l'expérience, vous ne suivez pas le sang avec tout le trajet qu'il fait des veines et des artères. Vous pouvez vous imaginer, oui, mais vous n'avez pas l'expérience. Même quand vous tâtez le pouls. Vous tâtez le pouls, vous voyez la vitesse de la chose, mais pas plus. Tandis que l'expérience affective, c'est une expérience intérieure. Avec tout ce que ça représente, de lutte, de victoire et d'intériorité. Et en même temps, d'appel à l'absolu. On voudrait être d'une limpidité absolue vis-à-vis de celui qu'on aime. L'époux voudrait être d'une limpidité totale à l'égard de l'épouse, tant qu'il s'aime. Et dès qu'il y a un petit grain de sable, je ne dirai pas ça. Alors ça grossit, ça grossit, ça grossit. Jusqu'au moment où il y a une séparation. Très mystérieux. Cette expérience de l'unité affective. Cette unité affective prend des modalités diverses. C'est encore une unité affective, l'unité du citoyen à l'égard de sa patrie. Mais elle est moins forte, puisque c'est la famille qui est le fondement de la cité. Et c'est dans l'écriture que l'Église, elle est la cité de Dieu. Jésus parle de son royaume. Mais c'est beaucoup plus fort d'être tête que d'être roi. Beaucoup plus. Là, vous voyez, c'est ça qui est très curieux. Il y a trois grandes unités. Il y a des sous-unités, si j'ose dire. Des sous-expériences d'unités moins fortes. Et ce qui serait très intéressant à faire, je n'ai pas le temps, je vous le suggère, si tu restes pas difficile à faire, c'est de voir tout ce que l'Ancien Testament dit sur le peuple de Dieu. Et donc sur l'Église, de manière préfigurative. Tout ce que Jésus dit sur l'Église. Et l'Évangile parle avant tout de Jésus, plus que de l'Église. Jésus parle de son royaume, oui. Et puis ce sont les mères qui sont intéressées de savoir ce que leur fils deviendra dans le royaume de Dieu. Si je me donne au Seigneur, si je le suis, est-ce que je serai ministre de l'autre côté? Premier ministre, c'est la mère de Saint-Jean. Il a eu le don de mettre en colère tous les apôtres. Ça devait être une mère extrêmement tenace. Il devait y avoir un très grand lien entre Jean et sa mère. Et quand Jésus dit en face de sa mère que c'est Marie qui est sa mère, elle l'a accepté. C'est merveilleux. Ça. Et voyez ce que je veux dire, que ces trois types d'unité sont clés de trois unités. Et c'est beau de voir que l'Esprit Saint se sert de ça pour nous aider à entrer dans le mystère de l'unité de l'Église. Troisième expérience de l'unité dans une œuvre d'art, surtout architecturale, puisque l'art architectural est architectonique. Donc il est l'œuvre d'art par excellence. Et dans une œuvre d'art, on voit tout dans une œuvre d'art et dans une œuvre architecturale. C'est l'unité dont on a l'expérience. Les critiques d'art tapent tout de suite là-dessus. Le plus boileau. Il manque d'unité. C'est peut-être très beau, mais il manque d'unité. Et quand vous faites une dissertation, vous direz, il y a plein d'intuitions, mais il manque d'unité. On ne voit pas très bien l'unité. C'est qu'il faut un très grand compliment qu'on vous fait en disant ça. Parce que vous pourriez répondre, oui, vous n'avez pas l'intelligence suffisamment pénétrante pour découvrir l'unité. Mais elle existe, vous la verrez. Alors vous regardez l'extérieur, les apparences. Et c'est vrai que l'unité, elle est toujours un peu cachée dans une œuvre d'art. Et dans le vivant aussi, elle est cachée. Et dans l'amour aussi, elle est cachée. Trois types d'unités, avec toutes les sous-expériences. Et ce serait intéressant de les relever. Et je crois qu'en effet, au plan philosophique, quand je réfléchis au plan philosophique, il y a bien trois types d'unités différentes. L'unité artistique, l'unité morale, et l'unité de vie biologique. Vous allez me dire, mais il y en a une autre, l'unité de l'être. C'est vrai. L'unité de l'être. C'est curieux. Vous voyez, ce problème de l'unité qui, au point de vue philosophique, a une très grande place. Et est très important. Les deux grandes philosophies, on peut dire, parce qu'au fond, les deux grandes philosophies européennes, et avant l'Europe, et du côté de l'Inde, c'est la même chose. Il y a un type de philosophie platonicienne, néo-platonicienne, où l'un est au-dessus de l'être. C'est très intéressant de voir ça. Pour le mystère que nous regardons. Et puis, il y a l'unité de la philosophie réaliste d'Aristote, qui est propriété de l'être. L'un est propriété de l'être. Il n'est pas au-delà de l'être, il est relatif à l'être. Vous voyez ? Je les mets au tableau, puisque c'est très important, il faut y réfléchir. C'est au cœur de la réflexion que nous prenons au point de vue théologique. Il y a toujours une réflexion philosophique. Et alors, c'est quand même intéressant de voir ça. Vous avez Platon. Et vous savez ce que dit Heidegger de la philosophie européenne. La philosophie européenne n'est qu'une glose marginale du platonisme. Et c'est pour ça que Heidegger a horreur de Platon. Mais il est notre nouveau Platon. des eaux. Ils se regardent comme de vieux amis. Mais la vérité est au-dessus. Faut pas l'oublier, hein, cette parole mémorable d'Aristote. Platon et la vérité, je les aime tous les deux, mais la vérité plus encore. Il dit ça dans un traité d'éthique, et non pas dans un traité métaphysique. C'est significatif. Alors pour Platon, l'un, donc l'unité, est au-dessus de tout. Et la bonté est égale à l'unité. Et l'être est en dessous. Propriété de l'un. Effet de l'un. Pour Aristote, l'être est premier. Et l'un est relatif à l'être. Et second, propriété. Là, cette très belle expression, l'un est acolyte de l'être. C'est-à-dire qu'il court après, comme tous les bons acolytes. Ce qui fait qu'ils arrivent en retard, vous voyez, parce qu'ils courent après. Tandis que l'un est avant. Et c'est un renversement complet. C'est très curieux. Dans l'Église, je n'ai pas parlé de l'être de l'Église. Pourtant, je suis plutôt du côté d'Aristote que de Platon. Donc je devrais parler de l'être de l'Église. Pourquoi je parle de l'unité de l'Église et non pas de l'être de l'Église? Pourquoi le Saint-Père nous dit qu'il faut prier pour l'unité de l'Église et non pas pour l'être de l'Église? C'est quand même curieux, ça. Alors que le Saint-Père aime la métaphysique et qu'il est réaliste. Mais c'est, là, on est obligé de dire, mais c'est vrai, j'avais pas pensé. J'étais de l'unité de l'Église, mais ça va, c'est normal, on regarde l'unité de l'Église. Et avant de donner la solution, je regarde ici, dans la perspective donc d'un réalisme, trois expériences de l'unité. Trois expériences. L'aspect vital du corps. L'aspect intérieur de l'amour. L'aspect vital de l'amour, des deux côtés. L'amour, l'amour d'amitié. C'est le point de vue de l'amitié. Et puis, troisième, l'art, l'œuvre d'art. On ne parle pas de leur être. Vie, c'est trois. Et il n'y en a pas d'autres. C'est ça qui est curieux. Oui. Il y en a une autre, le point de vue de l'être. Vous avez une expérience de la réalité dans son unité et dans sa multiplicité. Donc c'est au niveau de l'être. Non plus. On n'en parle pas. Profondément. Alors il faut se poser la question. J'ai presque envie de parler d'une solution pour que vous puissiez la trouver. C'était quand même très curieux, ça. Moi, ça me frappe beaucoup. On parle de l'unité de l'Église tout le temps, pas de l'être, de propriété. Et saint Paul prend les trois comparaisons. Le corps, l'amour d'amitié et le choix, si vous les mettez plutôt le choix, là, ce serait mieux. Comme ça, on voit tout de suite. C'est le choix libre. Et l'œuvre d'art architecturale, le temple. C'est évident que ces trois unités, ces trois trois expériences de l'unité, c'est ce qu'il y a de plus manifeste. Plus que lorsqu'il s'agit du jugement d'existence. Ceci est un. Alors, lorsqu'il s'agit de cette expérience de l'un, vous l'avez au niveau substance et au niveau acte. Point de vue métaphysique, vous l'avez au niveau substance, point de vue acte. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous les retrouvez, vous voyez. Vous commencez à comprendre. Ceci est un niveau substance. Et au point de vue acte. Vous voyez bien qu'il y a, et si vous vouliez pousser un tout petit peu, je dis ça pour les théologiens, vous verriez qu'il y a une expérience de l'un dans toutes les modalités de l'acte. Les cinq modalités de l'acte. C'est vrai. Mais de fait, saint Paul prend expériences les plus simples pour nous. Et je crois que c'est pour ça qu'il donne ça. Vous voyez, l'Église vous oriente vers la solution. L'Église n'est pas une œuvre naturelle créée par Dieu. Ce n'est pas une créature. Quelque chose de réel, mais ce n'est pas quelque chose de créé par Dieu. Comme mon âme qui est créée par Dieu. L'Église, c'est une œuvre surnaturelle. C'est un mystère. Dans le prolongement du mystère du Verbe incarné. Pour le Verbe incarné, vous voyez qu'il n'y a pas d'autre exister, d'autre être. Celui du Verbe. Mais il y a deux vies, la vie humaine et la vie divine. L'Église, elle existe en dépendance du Christ. L'exister de l'Église, c'est le mystère du Christ. C'est très étonnant. Comme l'exister du Christ, c'est l'exister du Verbe. Mais l'Église doit être la réponse de l'homme à Dieu. Nous faisons l'Église et nous sommes responsables de l'Église. On n'est pas responsable de l'existence de notre âme. On n'est pas responsable de la créature, parce que c'est Dieu qui la crée directement. Tandis que l'Église, on en est la responsable. Et c'est vrai, c'est cette chose très étonnante, que le Christ n'a pas voulu faire l'Église. Il a choisi des apôtres, fondement de l'Église. Et choisissant des apôtres, fondement de l'Église, il demande à ses apôtres d'avoir comme œuvre de faire l'Église. Réaliser cette œuvre, qui est une œuvre à la fois divine et humaine. C'est le temple de l'Esprit. C'est l'ami fait son ami en choisissant son ami. Puisque c'est dans la réciprocité, la réciprocité de l'amour, que l'ami existe. Nous faisons l'Église en l'aimant et en la choisissant librement. ce Dieu. Pendant la session, nous sommes une petite église qui essaie d'être intelligente et de réfléchir, d'avoir la conscience de l'église. Et c'est là qu'ils s'y rendent. Nous faisons œuvre d'église. Dès que nous réfléchissons sur l'église, et à ce moment-là, dans le regard de Dieu, il voit dans l'église un petit point un petit peu plus lumineux où la conscience est un peu plus divine dans l'église. Dans la mesure où nous réfléchissons sur ce mystère d'église. Nous faisons l'église dans sa... d'avoir sa demeure, son temple. Oui, c'est pour ça qu'on ne regarde pas l'être de l'église. L'être de l'église est celui du Christ. Le Christ est tête. L'église est l'époux. L'église est pierre angulaire. Je veux dire, le Christ est tête, le Christ est pierre angulaire, le Christ est l'époux. Donc, il est celui qui est premier. C'est ça que ça veut dire. Il est premier dans le choix. C'est lui qui nous a mis le premier. Il est premier, la tête. Il est premier, pierre angulaire. Les trois manières de regarder, d'être premier. D'être celui qui est source de ce qui vient après. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si Jésus est source de l'Église, il veut que chacun d'entre nous, à la suite du Christ, nous devenions source également d'Église. Puisque nous sommes responsables de l'Église. Par notre amour et par notre choix. Et que par notre choix et par notre amour, nous devenons des témoins vivants. Et nous sommes source d'Église. Cette chose merveilleuse. Quand vous convertissez, quand l'Esprit Saint se sert de vous pour convertir quelqu'un, pour conduire quelqu'un au baptême, c'est la grande joie pour le ciel et pour vous. Et vous êtes vraiment celui dont Jésus s'est servi pour faire rayonner l'Église. Donc il faut bien saisir que ces trois comparaisons que donne saint Paul sont vraiment des clés. Il faut tout le temps venir à ça si je veux entrer plus loin, aller plus loin dans le mystère de l'Église. Mais il y a encore une dernière révélation sur l'Église, la plus parfaite. C'est pour ça que je l'ai réservé pour la fin. Dernière, c'est celle que vous trouvez dans saint Jean. Alors, je vais m'y arrêter un peu, parce que elle est tellement belle. Chapitre 15 dans saint Jean. Vous allez voir. Vous allez voir ce qui est de très curieux dans ce chapitre 15. C'est que, d'une certaine manière, il n'y a rien de nouveau. Vous retrouvez les trois. En réalité, les trois sont venus après. C'est si je pense que c'est Jésus qui dit ça, il l'a dit avant saint Paul. Au point de vue de la révélation, c'est venu après. Ah, curieux, le Saint-Esprit, il joue comme ça, vous voyez. Alors, il joue. Alors évidemment, ça pose tous les problèmes exégétiques. Mais au point de vue de la foi, ça ne pose aucun problème. Aucun problème du tout. Saint Jean nous révèle cette dernière révélation sur l'Église. Et je dis bien la dernière. Alors, à la fois, elle contient les trois premières comparaisons. elle les contient. Et elle est faite pour exprimer quelque chose de nouveau, que ces trois ne disaient pas directement. Alors c'est ce quelque chose de nouveau qu'il faut bien voir. Pourquoi on réunit les trois pour saisir quelque chose de nouveau? Et ce quelque chose de nouveau est peut-être l'unité en ce sens que c'est vraiment Jésus qui est la source de l'aide de l'Église. Mais Jésus veut aussi que l'Église soit source de l'Église. C'est ça qui est si merveilleux. Et c'est tout le mystère de la fécondité de l'Église. Dans la fécondité, les parents sont source d'être et de vie pour un nouvel être. Et ce nouvel être, c'est leur enfant, tout entier relatif à eux. Donc, d'une certaine manière, par leur enfant et de leur enfant, ils sont source d'eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est ça qui est si extraordinaire. Ils se prolongent. Ils luttent contre la corruptibilité. Et donc, ils permettent à leur être de durer. Jésus est le fondateur de l'Église, la source de l'Église, mais il veut que l'Église dure par elle-même. Il lui fait cette totale confiance. C'est ce que Dieu a fait radicalement en créant le premier homme. Et n'a pas créé tous les descendants d'Adam, parce qu'ils ne seraient plus descendants d'Adam, ils seraient juxtaposés. Il aurait pu le faire, il aurait pu répéter. Il n'a pas voulu. Il voulait qu'Adam devienne source de toute la race humaine. Et l'Église devient source de l'Église. C'est très important de comprendre ça. Oui, parce que ça fait comprendre que l'Église peut se renouveler. Et ça fait comprendre comment Thomas d'Aquin montre que dans le gouvernement divin, dans la théologie de l'économie divine, il y a toujours ces deux aspects: conservare, rénovare. Alors, Jean nous montre le rénovare dans ce chapitre 15. Moi, je suis la vigne, la véritable. Alors, Jésus est tête, Jésus est l'époux, Jésus est pierre angulaire, Jésus est la vigne. Quelle dégringolade! C'est vrai, la vigne est moins digne. Oh, peut-être plus que la pierre angulaire. Parce que la pierre angulaire, c'est... Mais la pierre angulaire, c'est une œuvre d'art. La vigne, c'est une œuvre naturelle. Moins digne que l'amour d'amitié, le choix. Moins digne que le corps humain. La vigne. Alors, n'oubliez pas ce que dit Denis comme principe d'exégèse, qui ne fait pas partie de l'exégèse scientifique, mais qui fait partie de l'exégèse sapientiale. Il y a une exégèse de sagesse, il y a une exégèse scientifique. Il ne faut jamais l'oublier. Les pères de l'Église donnent une exégèse sapientiale. Et ce n'est que depuis très peu de temps que l'Église a des exégètes scientifiques. lumière, c'est, ça fait partie de ce que nous voyons, l'économie divine. Et alors, Denis donne ce principe extraordinaire. Chaque fois que l'Esprit Saint nous donne un symbolisme plus grossier, c'est pour cacher un secret. J'aime beaucoup ça. C'est très éclairant pour l'écriture. Chaque fois que l'Esprit Saint nous donne un symbolisme plus grossier, c'est plus grossier. Moi, je suis la vigne véritable. Jamais, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est dit vigne. Jamais. Tête, ça peut encore aller. Parce que ça, c'est le chef. Amour, ça va encore. Pierre angulaire. Fondement radical, choisi. Les vignes. Moi, je suis la vigne, la véritable. Et mon père est le vigneron. Est-ce que vous connaissez des icônes où le père est vigneron? Ça doit exister. Et si ça n'existe pas encore, il faut que ça en le fasse. Et mon père est le vigneron. C'est merveilleux comme... Vous voyez, c'est tout à fait l'erreur de Marie-Madeleine au sépulcre. Toi qui es jardinier, première fois dans sa vie où Jésus a entendu qu'il était jardinier, il a fallu qu'il meure et qu'il soit ressuscité pour être appelé jardinier. C'est quand même quelque chose comme... Et mon père est le vigneron, tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Ah, la finalité, c'est de porter du fruit. Et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie pour qu'il en porte davantage. Ah, vous voyez, les rameaux, le sarment et la vigne, c'est le corps et la tête. Unité substantielle de vie. Mais pas au niveau du corps humain, au niveau de la vigne. Mais c'est la même unité. C'est une unité semblable. Une unité substantielle de vie. Vous savez bien, on peut couper un petit rameau de la vigne et l'analyser. Et on verra tout de suite qu'on retrouve quelque chose de semblable que dans le tronc. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et quand on trouve un mis dans la même tombe, dans le même sépulcre, quand on trouve des ossements mêlés, on disait, c'est Saint Benoît. Ah, pas du tout. C'est aussi Saint Scolastique. On a pu discerner que dans les ossements qu'on mettait tout ensemble, il y en avait les uns qui étaient d'une femme et l'autre d'un homme. C'est merveilleux, hein, l'unité du corps. Ça prolonge ce que dit Saint Paul, c'est merveilleux de voir ça. Alors, on retrouve ici quelque chose de tout à fait semblable. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie pour qu'il en porte davantage. La seule différence, c'est qu'on parle de la fécondité, le fruit. Pur, vous l'êtes déjà, vous, à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous. Ah, ça c'est bien le choix mutuel de l'ami. L'ami, par son choix, demeure dans le cœur de l'ami. Il faut choisir l'ami pour demeurer dans son cœur. Il faut recevoir son choix pour qu'il demeure dans mon cœur. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure en la vigne. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Vous avez donc bien les deux comparaisons du corps et de l'amour. Et puis, vous avez la troisième, qui est la taille du Père, les tailleurs de pierre. Parce qu'on ne taille pas le corps humain comme ça pour qu'il soit plus parfait. Ça ne va pas du tout. Tandis qu'on taille la vigne. Donc là, on retrouve, troisième, la taille. Donc l'œuvre d'art. Une vigne taillée, c'est une œuvre d'art. Ça, c'est sûr. Ça ne pousse pas comme ça tout seul. Ça implique l'œuvre d'art. Ligne 2. Très curieux que Jésus ait choisi exprès la vigne pour montrer à Freud qu'il se trompait. Parce qu'il n'y a que des nœuds. Et les nœuds permettent la fécondité. Et on les veut les supprimer. Alors ce qui est difficile, évidemment, c'est de dépasser le nœud. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pas la même chose de supprimer les nœuds ou de vouloir les dépasser. C'est quand même très curieux, ça. C'est pas laissé au hasard. Moi, je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette dehors. Comme le sarment, il sèche. Et les sarments secs, on les ramasse et on les jette au feu. Et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et vous l'aurez. On a toute, j'allais dire, toute autorité sur le Père, si on demeure dans sur le vigneron. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous deveniez mes disciples. Donc, cette dernière analogie, cette dernière comparaison, ajoute quelque chose de très particulier. La fécondité et la relation au Père. Je vous salue, Marie.